Je vous invite à chercher aux Hébreux chapitre 7. On sera au verset 4, du verset 4 au 25. Nous avons déjà parlé la dernière fois. Justin a fait l'introduction à Melchizedek, au monsieur M, cet homme qui n'a ni début, qui n'a ni fin, celui qui apparaît juste dans les Écritures. J'ai préparé quand même quelques diapos pour vous aujourd'hui. Mais quand nous lisons les Hébreux chapitre 7 et suivant, nous sommes dans un système de sacrifice, on est dans un système où il y a des prêtres, on est dans un système où il y a un temple, un tabernacle. Ces choses sont totalement étrangères à notre monde aujourd'hui. Nous ne vivons pas dans un monde où il y a des prêtres, ni sacrifices, ni temples comme à cette époque-là. Notre monde ne le voit pas. Mais il faut quand même comprendre l'importance des promesses que Dieu avait données à son peuple à travers les prophètes, à travers d'autres, et de comprendre que ces promesses, toutes ces promesses sont accomplies en Christ Jésus. C'est cela que nous apprenons. J'ai mis quelques versets ici que vous pouvez voir, l'importance de ces promesses de Dieu. Premier, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, qui dit « Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, c'est-à-dire en Christ. C'est donc aussi par lui, par Jésus, que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. » Continuellement, les chrétiens voyaient que Jésus était celui qui accomplissait toutes les promesses de Dieu. C'est lui le grand oui que Dieu donnait à tout ce qu'il avait promis à son peuple. Aux Actes chapitre 13, les versets 32 à 33, Paul se trouve dans la synagogue des Juifs, évidemment des Juifs, et il commençait à prêcher ou il terminait sa prédication, et voici ce qu'il dit. Il dit, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et donc, nous remarquons que le message des apôtres, quand ils allaient de ville en ville, quand ils rencontraient les Juifs, c'était que Jésus est celui qui accomplit les promesses de Dieu. Il est le grand oui, il n'est pas un non, il est un grand oui à tout ce que Dieu avait dit. Et puis, c'est celui qui amène la vie éternelle qui était promise à son peuple. N'aimez-vous pas, ici dans le passage, il dit, selon ce qui est écrit au psaume 2. Même à l'époque, ils avaient numéroté les psaumes, ils n'avaient pas mis les versets, mais ils avaient mis les chapitres. Et donc, ils ont dit, bah, regardez les Écritures, on parle de cela. Et donc, aujourd'hui, nous tombons sur un passage qui est clé pour la compréhension de Jésus, qui est un prêtre, mais selon l'ordre de Melchizedek. Et ce psaume qui est important, qui donne une promesse, c'est le psaume 110. Okay? C'est le psaume 110, qui est l'un des passages de l'Ancien Testament le plus fréquemment cité dans le Nouveau Testament. Et je vais juste vous lire les premières quatre versets. On lit pas 5 et 6 et 7 parce que là, on parle plutôt de jugement de celui qui devait venir. Mais voici ce que nous avons, le psaume 110, les premiers quatre versets. C'est un psaume de David. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, à toi la rosée de la jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Ce qui est intéressant dans le psaume, pour moi, il y a plusieurs choses, mais il y a deux choses. C'est Jésus lui-même qui cite ce psaume pour parler du Messie. Vous vous souvenez, il cite cela au scribe, il dit, mais comment est-ce que il peut dire, le Messie va dire, David dit au Messie, son Seigneur, celui qui vient après, assieds-toi à ma droite, etc. Donc, comment est-ce qu'il peut appeler le Seigneur celui qui est son descendant. Puis la deuxième chose que nous remarquons, c'est la première fois dans les Écritures où nous avons la royauté, c'est-à-dire assis à la droite de Dieu, liée à une sacerdoce, c'est-à-dire dans une seule personne, nous avons la manifestation de la royauté de David et puis d'un prêtre. mais un prêtre, évidemment, de l'ordre de Melchisédek, il dit dans notre texte. Et cela nous amène à ceci, cette vérité historique, et il faut comprendre un tout petit peu cela dans les Écritures, c'est que pour un prêtre de l'Ancien Testament, il fallait être de la tribu de Lévi, et non seulement de la tribu de Lévi, mais de la famille d'Aaron. Et ceci est important, vous vous souvenez, il y avait, quand vous lisez l'histoire du Pentateuque, vous allez tomber sur une famille qui s'appelle Coré, Q-O-R-E, accent. Et quand vous lisez cela, vous voyez que Coré et sa famille ont voulu prendre la possibilité, avoir la possibilité d'offrir des sacrifices à Dieu. Ils avaient d'autres responsabilités parmi la famille de Lévite, mais c'est ça qu'ils ont voulu faire. Et Dieu avait choisi d'une manière mais vraiment spectaculaire, il avait choisi la famille d'Aaron plutôt que la famille de Coré. Et donc, nous avons un prêtre qui devait être de la tribu de Lévi et de la famille d'Aaron, le frère de Moïse. Mais nous remarquons aussi que pour le roi, la promesse était donnée qu'il devait être de la tribu de Juda et de la famille de David. Peut-être il serait utile pour nous juste de parcourir ces promesses rapidement. Comme ça, vous voyez l'importance que cela joue dans l'Ancien Testament. Nous avons donc d'abord une promesse qui est donnée à Ève, quand on donne aussi les douleurs qui vont venir à cause de leur péché, disons les douleurs de l'enfantement. Nous voyons aussi, évidemment, que la terre allait travailler contre l'homme. Mais il dit aussi que à travers la descendance d'Ève allait venir celui qui allait écraser la tête du serpent. Et bien sûr, nous apprenons plus tard dans l'Apocalypse que ce serpent, c'est Satan lui-même qui s'oppose à tout ce que Dieu veut faire. Plus tard, au Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 15, chapitre 17, et plus tard avec chapitre 21 ou 22, si je me souviens bien. Alors, il y a une promesse qui est donnée à Abraham. Et nous nous souvenons qu'Abraham n'avait pas d'enfant, et il y a les promesses qui sont, il y aura un pays, il y aura une descendance, il y aura une grande nation, et que toutes les nations de la terre seraient bénies à travers sa descendance. Et ça, c'est important. Cela est repris dans le Nouveau Testament pour montrer pourquoi nous sommes des enfants d'Abraham par la foi que nous avons en Christ. Abraham a deux enfants, mais l'un des enfants est appelé l'enfant de la promesse. C'est-à-dire, c'est Isaac, qui est le fils de Sarah. Nous nous souvenons que lui, il a eu aussi des fils, mais l'un de ses fils s'appelait Jacob. Et son nom va devenir Israël. Et plusieurs fois, donc Dieu va rencontrer Jacob et il va lui dire que la promesse est pour lui, que la descendance va venir là et les promesses données à Abraham sont pour lui à travers, évidemment, Israël. Nous tombons au chapitre 49 de Genèse sur une bénédiction que Jacob donne sur ses 12 fils. Oui, il avait 12 fils avec 4 femmes, ou 2 femmes et 2 servantes. Il a ses 12 fils. Et nous nous souvenons qu'au fils qui s'appelle Judas, donc Genèse chapitre 49, le verset 10, qu'est-ce qui se passe? Il dit, à toi sera le sceptre. Et ce sceptre va continuer à travers les descendances jusqu'à ce qu'il arrive à la personne qu'il fallait, okay, au Shiloh, on dit. Et ça veut dire que ça allait être passé de père en fils, de père en fils, de père en fils, jusqu'à ce qu'un jour que ça arrive à celui qui devait l'avoir. Ce qui est assez intéressant, donc, qu'est-ce qui se passe quelques 1900 ans après cela? Nous avons deux personnes, une qui s'appelle Marie et l'autre qui s'appelle Joseph. Et le Saint-Esprit va les visiter, Gabriel va venir parler avec eux pour dire qu'ils allaient avoir l'enfant Jésus qui est de la famille de Judas, un enfant né de l'Esprit-Saint et de sa mère qui n'avait jamais connu d'homme, qui est Marie. Et donc nous avons cette promesse qui est remplie en Jésus-Christ, qui parcourt tout l'Ancien Testament et que nous retrouvons de nouveau dans le Nouveau Testament. Mais quand nous regardons cela, nous voyons que ici nous avons la royauté du Messie qui est mentionnée. Messie veut dire le prince. Hein? Nous avons sa royauté. Mais nulle part ici avons-nous la prêtrise. Nulle part avons-nous ici le fait qu'il sera le sacrificateur qui allait intercéder pour son peuple. C'est à travers des passages que nous avons ici, comme le psaume 110, et puis dans quelques passages de Zacharie, que nous voyons que les deux étaient mis ensemble. Bon, je vais juste enlever cela du tableau. Si vous avez l'avantage, hein, c'est bien de venir parce que si vous écoutez seulement les podcasts, vous voyez pas ce que j'écris sur le tableau. Okay. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, de venir. Ça vaut le billet de venir. Alors, j'aimerais juste, donc, quand on regarde, je vais juste revenir à ce passage et on va faire une petite lecture parce que si on lit pas le texte, alors on peut pas vraiment en parler. Donc, je vais reprendre notre texte et je vais commencer au verset 1, même si Justin a parlé de cela la semaine passée. Et puis, avec votre patience et votre concentration, on va lire les 25 versets de ce petit texte. Alors, nous sommes aux Hébreux, chapitre 7, le verset 1. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Bon, je vais tricher. J'aimerais juste que nous comprenions que Jésus a déjà été annoncé comme le grand roi. Le passage juste avant, dans chapitre 6, le verset 19 à 20, pardon, que Jésus avait été annoncé comme grand prêtre, le verset 6, 19 et 20 dit « Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain, sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Et donc, nous voyons que ce Melchisédek qui est repris dans notre texte ici, il est mentionné deux fois dans l'Ancien Testament. Une fois, c'est dans Genèse chapitre 14. Si vous vous ennuyez, vous pouvez lire cela pendant que je parle. Et sinon, il est aussi dans le psaume 110 que nous venons aussi de lire. Et notons bien, la présentation de Melchisédek dans notre texte, c'est qu'il est le roi de justice et le roi de paix. C'est ça qui veut dire son nom. Okay. Il est sans père ni mère, c'est-à-dire sans généalogie. Il apparaît pour quelques versets et puis après, il disparaît. Et il est plus grand que la famille d'Aaron. Et donc, Jésus fait partie de l'ordre de prêtres, de l'ordre de la famille de Melchisédek. C'est assez intéressant de voir qu'il est mentionné dans les textes de l'époque. On parlait de cet homme mystérieux dans la littérature juive des siècles juste avant Jésus et puis les siècles après lui. Il est sans père ni mère, ne veut pas dire qu'il n'avait ni père ni mère, ça veut dire simplement qu'il apparaît comme cela de Salem, c'est-à-dire de Jérusalem, le roi de Jérusalem, il apparaît et il va interagir avec Abraham pour le bénir et pour recevoir la dîme. Alors, voilà, donc on va voir qu'il y a quatre façons pour lui de montrer sa supériorité. Et cela, nous voyons ceci au verset 4 et suivant de Hébreux 7. Donc voici les versets 4 et suivants. On va lire jusqu'à la fin. Je triche plus, ok? Cette fois-ci, on lit jusqu'à la fin. « Oh, considérez combien il est grand celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donnait la dîme du butin. » Wow, ok, j'ai menti. Il faut savoir, il dit « considérez combien il est grand » parce que Abraham lui-même, le patriarche. Alors, quand il dit « Abraham lui-même, le patriarche », il est en train de dire « Abraham, c'est le top des tops. Okay? » Il y a Abraham, il y a Isaac, ok, il joue pas un rôle très très important, même s'il est très important. Jacob, alors ouais, il est parmi les grands, Moïse, ok, mais on a déjà montré que Jésus est plus grand que Moïse. Et puis finalement, il y a David. Il y a David. Et donc, il veut montrer ici comment le sacerdoce de Jésus à travers le Melchizédek est plus grand qu'Abraham lui-même, qui est, je dis, c'est l'un des tops parmi Israël. Ok, on y va, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, là, pour ainsi dire, payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchizédek alla à son rencontre. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacrifice lévitique, car c'est sur lui qui repose la loi donnée au peuple, quel besoin il y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchizédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu. Donc personne n'a été attaché au service de l'autel, c'est-à-dire personne dans la tribu de Juda n'a été prêtre. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore comparé à la ressemblance de Melchizédek, un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchizédek. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sincèrement. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sincèrement. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. De plus, ces sacrificateurs en existaient en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Bon, nous comprenons pourquoi Paul, l'écrivain aux Hébreux, a écrit au début que ça c'est de la nourriture solide, c'est pas du lait, et il faut être assez adulte pour le comprendre. Mais ce que nous comprenons en lisant cela, c'est qu'effectivement, il faut être avocat pour comprendre ces différentes choses. En tout cas, il faut de vouloir se plonger dans les Écritures. Et j'aimerais, voici, vous montrer plusieurs façons, plusieurs choses que nous voyons dans le texte. Il y a quatre façons de démontrer la supériorité de Jésus sur les prêtres de l'Ancien Testament. Première chose, c'est qu'il va aller à cette rencontre que nous avons dans au Genèse chapitre 14 entre Abraham et le roi de Shalem, c'est-à-dire Melchizedek. Et dans cela, nous voyons qu'Abraham, après avoir gagné cette bataille, va donner la dîme, avec circonflexe, va donner la dîme à Melchizedek. Et comme d'habitude, ce sont les Lévites qui reçoivent la dîme du peuple. Ici, c'est les Lévites qui paient la dîme à travers Abraham. C'est assez simple à comprendre. c'est le plus petit qui paie la dîme au plus grand. Les Lévites avaient été mis à part par Dieu pour, même s'ils étaient des frères, de recevoir une dîme qui venait de ses frères. Et qu'est-ce que nous avons? Donc Abraham, qui est le père des Lévites, trois générations plus tard, il est le père des Lévites, que fait-il? Lui donne la dîme à celui qui est plus grand, c'est-à-dire Melchizedek. Dans un sens, c'est la tribu de Lévi qui est en train de payer la dîme à Melchizedek, c'est-à-dire l'ordre de prêtre de Melchizedek est au-dessus des enfants d'Aaron, les enfants de Lévi. Ça, c'est la première chose que nous remarquons. Et donc, l'ordre de sacerdoce de Jésus est plus élevé que ce que les êtres humains avaient autrefois dans la famille d'Aaron. Ouf, bravo, vous avez survécu la première. Le deuxième, c'est un peu la même chose, c'est que Melchizedek bénit Abraham. Et c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Et donc, dans un sens, on est en train de dire que Melchizedek doit être plus grand qu'Abraham, parce que lui, il a reçu sa bénédiction. Abraham a reçu la bénédiction de Melchizedek. Assez intéressant, quand Jacob descend, lui, en Égypte, il va bénir le Pharaon. Et cela montre que Jacob, avec la présence de Dieu, était au-dessus de Pharaon. Alors attention, parfois on dit « je bénis Dieu », ça veut dire que nous disons toute sa bonté et toutes ses bonnes choses. Mais Dieu n'est pas impacté par cela d'une manière positive, dans le sens que les choses vont aller bien pour lui. Okay? Parce qu'il est plus grand pour nous. Nous sommes en train d'être reconnaissants que nous bénissons Dieu. Mais quand Dieu bénit un être humain, il est en train de lui donner quelque chose, sa parole qui agit dans sa vie. Troisième chose que nous remarquons, il dit qu'il est un prêtre éternel. C'est-à-dire, symboliquement, Melchizedek ne meurt pas. Et réellement, Jésus a vaincu la mort et il est le seul prêtre nécessaire maintenant pour les êtres humains. Vous savez qu'il y avait des souverains sacrificateurs qui étaient les souverains sacrificateurs pour toute leur vie. Mais à leur mort, il fallait donner à un autre. Et donc, ça pourrait être 20 ans, 30 ans, ça pourrait être 5 ans que cela durait. Et le pire, c'est au moment des Grecs et des Romains, quand il y avait des puissances étrangères qui dirigeaient Israël, les prêtres duraient pour une seule année, nommés par les Romains ou nommés par les Grecs. Et donc ici, nous avons un prêtre qui est au-dessus de tout, de l'ordre de Melchizedek, qui ne mourra plus, parce qu'il est celui qui est éternel. Et la deuxième chose, les gouvernements de ce monde ne peuvent pas le toucher. Et donc, les prêtres sont mortels, mais l'ordre de Melchizedek, il n'y a pas de commencement ni de fin. Et Jésus est un prêtre éternel qui s'est offert comme sacrifice et comme sacrificateur, et il possède, au verset 16 de notre texte, il possède une vie impérissable. Certaines versions disent une vie sans fin, d'autres disent une vie indestructible, qui veut dire il peut continuer à intercéder pour nous dans le tabernacle céleste. Et puis une dernière chose, c'est que il dit ici que les lois et le prêtre n'atteignent pas la perfection. Mais Jésus est celui qui est parfait. Est-ce que quelqu'un a vu un sacrifice d'animal, c'est pas un agneau, un taureau, avec vos propres yeux? Est-ce que vous avez vu cela quelque part? Un sacrifice? Okay. Vous savez que cela faisait partie de la vie d'Israël, non seulement chaque jour, matin et soir, mais chaque sabbat pour marquer la fin d'une semaine, par chaque lune, nouvelle lune, donc chaque mois, et aussi par chaque année. Et c'était donc des sacrifices qui étaient offerts perpétuellement pour le peuple, non seulement pour le péché, mais aussi en reconnaissance, en communion. Les Juifs de l'époque vivaient dans la fumée des sacrifices continuellement offerts à Dieu. Et nous ne vivons pas cela. Pour nous, nous peut-être n'avons pas cette manière tactile de voir les conséquences de la rébellion que nous avons contre Dieu. Parce que quand, imaginons, vous avez votre agneau, vous avez votre bouc, vous avez votre animal que vous allez offrir. Vous l'amenez au temple. Vous savez ce que vous faites avec cet animal? Vous posez vos mains dessus quand il est égorgé. Et l'idée, c'est qu'un animal totalement innocent va mourir à la place car le péché demande le sang. Sans sang, sans effusion du sang, dit la loi, il n'y a pas de pardon. Et donc, continuellement, le juif était, il avait dans son esprit l'impact de son péché sur sa propre vie et aussi ce qu'il fallait que Dieu fasse pour qu'il reçoive le pardon. Il savait que ça devait être lui qui était égorgé parce que le péché mène à la mort. Mais Dieu, dans sa bonté, a donné le sacrifice des animaux purs pour procurer, pour un moment, le pardon des péchés. Et Christ, quand il est venu, donc, lui est devenu un sacrifice parfait pour offrir son corps parfait sur la croix. Et ressuscité, il peut devenir un prêtre parfait, car il est sans péché, il est comme nous, mais il est aussi à la droite de Dieu. Bon. Je parle un peu trop, mais juste pour vous voir ces différentes choses, regardons ce qu'il dit ici au verset 7, le verset 11 et 12. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin il y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement la loi. Et donc, quand Christ vient, il y a un changement total. Il y a une nouvelle alliance. Nous l'avons célébrée. Bolek nous a parlé aujourd'hui de cette offrande qui est donnée par notre souverain prêtre. Concernant les sacrifices, juste que vous sachiez, il y avait des holocaustes, des animaux qui étaient totalement brûlés. Il y avait sacrifice d'expiation, de celui de culpabilité, où le sang était giclé, une partie qui était brûlée au dehors du camp, une autre partie qui était donnée au prêtre, et d'autres sacrifices de communion, de purification, de vœux et de reconnaissance. Chaque sabbat, chaque matin, chaque soir, il y avait continuellement ce rappel de péché du peuple. Et quand Jésus est venu, il a fait le nécessaire pour comme sacrificateur parfait. Bon. Et alors? Ok, on a compris quelque chose de difficile. Peut-être vous avez déjà compris avant et vous aurez pu faire plus vite que moi. Mais pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ben, je crois qu'il y a des messages très très importants. Et pour moi, le besoin, c'est pas de vous faire reconnaître le péché que nous avons. Je crois qu'il y a d'autres passages qui parlent de cela, mais la première chose, c'est que Jésus sert de prêtre pour tous. Il est celui qui est à la droite de Dieu. Il est celui qui intercède pour nous tous. Et donc, il comprend les coutumes de notre société, il comprend les choses qui étaient demandées des Juifs de l'époque, il comprend les besoins, et il dit qu'il y a un seul prêtre maintenant qui a accès à Dieu, et nous avons accès à Jésus-Christ. Et ça c'est la bonne nouvelle. Tous ont besoin de sacrifices, tous ont besoin de prêtres, mais c'est pas en courant à des hommes que nous avons trouvé cela, c'est en venant à Jésus. Et j'aimerais juste vous dire que vous avez vu à la fin, il dit, et il nous mène dans la présence de Dieu, proche de lui, il dit, proche de lui. On est proche de lui comme ça. Okay? Deuxième chose, c'est que nous avons besoin d'espérance. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'au chapitre 6, le verset 18 et 19, il dit que nous cherchons notre ancre d'espérance, comme des pèlerins dans notre vie qui sont bafoués par les persécutions et parfois par les doutes. Il dit, nous avons besoin d'une ancre d'espérance. Et Jésus est notre espérance, car il est celui qui est le sacrifice parfait et le prêtre parfait. Et troisième chose, dans un monde où tout naît et tout meurt, dans un monde où tout change, dans un monde qui est rempli des choses comme le fake news, un monde qui est rempli de ce qui est éphémère, où on pense qu'il y a une fin à toutes ces certitudes qui existaient avant, bon, quel est le message de Dieu? Le message, c'est que, spécialement pour ces gens qui sont désorientés, qui ne comprennent pas le monde, qui cherchent un fondement sur quoi construire leur vie, le message des Hébreux, c'est que nous avons Jésus-Christ. Et dans un monde changeant, postmoderne, qui ne croit à rien, ou croit simplement à des vérités individuelles, il y a quelque chose de solide, ça c'est Jésus. Et Jésus lui-même a dit, au début de son ministère, il a dit, construisez votre vie sur mes paroles. Et quand les moments difficiles viendront, la vie va pas tomber, vous allez rester fidèles. La dernière chose que nous remarquons, quel est cet amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est que non seulement il veut être en relation avec nous, non seulement il désire nous connaître, non seulement il poursuit dans son amour, mais que fait-il? Il offre le sacrifice son propre fils, Jésus, et son propre fils comme prêtre pour toujours. Il déclare combien est son amour pour son fils et combien est son amour pour nous. Son amour pour nous parce qu'il donne son fils unique et son amour pour son fils parce qu'il écoute chaque fois que Jésus intercède pour nous comme prêtre à sa droite. Et donc nous vivons avec une grande espérance, une encre de l'espérance qui est tout ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons un prêtre qui est de l'ordre de Melchisédek, celui qui est éternel, celui qui est parfait, celui qui a vaincu la mort et celui qui nous mène dans la présence de Dieu.